Sans qu'il aura l'amour, nous vaincrons.
Sans qu'il aura l'amour, nous vaincrons.
Nous sommes frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous la main.
Tenons-nous par la main.
Marchons
de même.
Jusqu'à son retour.
Qui
pourra nous décourager?
Qui pourra nous décourager?
Si nous sommes unis en lui.
Si nous sommes unis en lui.
Sans qu'il aura l'amour. À son retour, qui pourra nous décourager?
Qui pourra nous décourager? Si nous sommes unis en lui,
donc il aura l'amour.
Il aura l'amour.
Nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs.
Nous sommes frères et sœurs en Jésus.
Que Dieu est un Dieu fidèle. Est-ce que tu peux te mettre debout simplement là où tu es, en levant ta main vers le ciel et en disant: oh Dieu,
fidélité est incomparable.
merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ce que tu as dit. Ce que ta bouche proclame, ta main l'accomplit. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous conduis à nous appuyer sur ta parole. Et comme ta parole est vraie, ce qu'elle dit se fera. Et je te remercie pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole maintenant. Qu'elle puisse être investie en nous et porter en nous des fruits à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si on peut acclamer, on peut lui offrir une offrande d'acclamation ce matin. Alléluia. Vous asseoir, s'il vous plaît. On continue notre enseignement sur le réveil spirituel individuel. Et dimanche dernier, je vous ai expliqué que le réveil spirituel individuel se vit principalement ou généralement avec les disciples. Qu'il y a une différence entre les fidèles et les disciples. Les fidèles sont des gens qui sont fidèles, qui viennent à l'église, attachés à une église, parce qu'ils sont nés dans l'église, parce que bon, ils ont des amitiés avec le pasteur ou avec deux ou trois personnes. Ce sont des fidèles. Et quand un événement se produit, bon, il peut partir. Ou bien, je veux dire, c'est comme par habitude. Un fidèle n'a pas de grande perspective. Il peut donner de l'argent pour construire l'église, comme nous sommes en train de construire le temple actuellement après l'achat du terrain. Il peut me faire une grande offrande. Et quand l'église est bâtie, il va dire, bon, ça c'est mon église. Je suis né là ou bien je suis allé là. En fait, il peut même rappeler les circonstances dans lesquelles il vient à l'église. Ça, c'est les fidèles. Mais ceux qui vivent le réveil spirituel individuel, ce ne sont pas des fidèles, ce sont des disciples. Tu as voisin des disciples. Par définition, un disciple est une personne qui apprend auprès de qui? Auprès d'un maître. Et un disciple a vocation à devenir qui? A vocation à devenir un maître. Vous voyez que ce n'est pas par habitude, il est là parce qu'il apprend auprès de quelqu'un. Donc, vous voyez, son standard de vision est plus élevé. Il veut atteindre un objectif, être comme son maître. Or, un maître se reproduit. Donc, un disciple qui a fermé devient maître, qui plus tard va engendrer qui? Va engendrer des disciples. Donc, il se reproduit sur plusieurs générations. Et c'est ce que j'ai commencé à vous donner comme enseignement. Et j'ai dit la dernière fois que je ne veux pas avoir affaire à des fidèles, je veux avoir affaire à des disciples. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est important qu'on est disciple de suivre les pas du Seigneur. Et je vais montrer ce matin comment est-ce que le disciple vit le réveil spirituel individuel. Et dimanche passé, j'ai commencé par dire que le réveil spirituel individuel se vit d'abord, en grand un, par la communion avec Dieu, et en grand deux, par l'action ou par la construction du royaume de Dieu. Donc la communion avec Dieu, qui a été le premier axe de ma réflexion sur lequel je vais continuer aujourd'hui. Et deuxième aspect, la construction du royaume de Dieu. Dans la première partie, qui est relative à la communion avec Dieu, j'ai expliqué que la communion avec Dieu se réalise à un triple niveau. Ou si vous voulez, avec trois piliers. Et j'ai montré que le premier pilier de la communion avec Dieu, c'était quoi? Répondez-moi, c'était quoi? La révélation de la parole de Dieu. On ne peut pas être en communion avec Dieu si on n'a pas une communion avec la parole de Dieu. Il est dit au commencement, Dieu créa. Mais dans Jean, il est dit, dans Jean 1:1, il est dit, au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu. Donc, quand je suis en communion, quand j'ai la parole de Dieu, je suis en train de recevoir qui ou quoi? Je suis en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc, j'ai montré cet aspect. Et on va continuer dans le même sens. Je vais même donner un exemple. C'est pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais même donner un exemple. Que l'âme, que l'aspect intérieur de l'homme, ressemble à peu près au corps, qui est la partie physique. Pour que le corps tienne, ce matin, j'ai dû même croquer juste une pomme et boire un peu d'eau pour avoir la force, puisque j'allais parler un peu pendant moins 40 minutes. Quand je donne mon cours, je bois de l'eau parce que quand on parle beaucoup, on perd des calories. Donc, on perd de l'énergie, il faut remplacer. Donc, vous voyez que si vous parlez beaucoup, vous vous déplacez, faites du sport, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va s'affaiblir. Donc, si vous ne mangez pas correctement, de manière équilibrée, vous allez en magasin des maladies. Certaines maladies viennent non pas du sorcier, mais de ce qu'on mange. On mange mal, on mange gras, on parle de cholestérol, des fois on dit les reins ne sont pas bien, enfin ce n'est pas bon. Bref, vous voyez qu'on a besoin d'évacuer. Donc, en fait, au niveau spirituel, l'âme est comme le corps. Qu'est-ce que l'âme fait? Quand vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, quand vous entrez en communion avec Dieu au moyen de sa parole, votre âme, qui est votre âme, qui est votre homme intérieur, se fait quoi? Se nourrit. Cette âme se nourrit et fait quoi? Et se fortifie. Donc, s'il y a une attaque extérieure, n'importe quoi, votre âme va résister, votre homme intérieur va résister. Pourquoi? Mais parce qu'elle a assez de force qu'elle a puisée en Dieu pour résister contre toute forme d'attaque. C'est exactement la même chose pour le corps. Quand, par exemple, le corps n'a pas suffisamment mangé, vous ne mangez pas correctement, c'est déséquilibré, votre nourriture est pauvre en sel, minéraux, en acides aminés, en protéines et tout ça. Il y a le cochon-corps. Bon, et puis, quand vous ne dormez pas bien, la maladie. Donc, il suffit que vous ayez une attaque d'un petit virus, d'un microbe, votre corps, vous tombez malade simplement parce que le corps n'a pas les ressources pour résister contre qui? Contre les maladies. La même chose, quand votre âme, quand vous n'êtes pas en communion avec Dieu par le poème, la parole, vous êtes faible. Et j'ai dit que vous pouvez faire des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez exactement faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Pas parce que vous voulez le faire, mais parce que vous n'avez même pas les capacités de résister. Et j'ai montré que c'était très important que nous apprenions tous à faire quoi? À lire la parole de Dieu, à la méditer pour qu'elle s'asseye en nous, qu'elle se développe en nous. Ça, c'est ce que j'ai pu dire assez rapidement dimanche dernier. Pour les 30 minutes qui me restent, on va avancer dans notre pas et montrer que la parole doit être lue tous les mois. Toutes les semaines. Les dimanches matin, je cherche ma Bible en dessous de mon lit. C'est poussiéré, je frappe. Je mets ça ici, je vais à l'église. Et j'attends que le pasteur puisse donner un bon passage. Je lis, je m'en vais. Est-ce que c'est comme ça se passe? Non. Je vais vous montrer quelque chose. Dans la parole de Dieu, Israël un jour avait réclamé quelque chose. Il avait réclamé quoi? La manne. Comment nourrir environ 3 millions de personnes sans boulangerie? Sans boulangerie. On parle de 6 000 hommes de pied. Quand on parle d'hommes, on parle des gens qui sont en âge de se marier, 20 ans et plus. Imaginez qu'un homme avait une femme, ça veut dire combien? Ça veut dire 1 million 2. Si on pense qu'il y a des gens qui avaient 3 enfants, il y en a qui avaient 4, il y en a qui avaient 5, même 10 à l'époque, on faisait beaucoup d'enfants. Donc on a estimé le nombre d'environ 3 millions de personnes. Comment nourrir 3 millions de personnes sans boulangerie? Alors le peuple demande à Dieu, à Moïse prie, il dit, je ferai tomber du ciel quelque chose. Comment appelle ce quelque chose-là? La manne. Dis à ton voisin, la manne. Ce matin, je vous fais la révélation de ce qu'on appelle la manne céleste, la manne spirituelle. Notre âme a besoin de manger la manne. Et ce matin, je vais expliquer que pour connaître le réveil spirituel individuel, il faut manger la manne. Dieu ton voisin, il faut manger la manne. La manne, c'est quoi? La manne, c'est la communion avec Dieu au moyen de sa parole. Prenez vos Bibles dans Exode chapitre 16. On va voir le verset 4. On lira le verset du 9 et le verset au verset 21. Exode chapitre 16. L'Éternel, on ne change pas Exode, c'est juste après Genèse. Genèse, c'est le commencement de la Bible, donc on ne change pas ça. Alors, l'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir sur vous du pain du haut du ciel. Souligne l'expression du pain du haut du ciel. L'expression du haut du ciel. Il dit, je vais vous faire quoi? Je vais vous faire pleuvoir. Souligne le mot pleuvoir. Le verbe pleuvoir. C'est quel mot qui est utilisé chez vous? À la place de pleuvoir, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Quel mot qui est utilisé à la place de pleuvoir chez vous, dans votre version? Qui a un autre mot, un autre verbe à la place de pleuvoir? Ok, donc c'est le même mot qu'on a. Bon, beaucoup de personnes, la même version, plus ou moins. Je vais faire quoi? Pleuvoir la main du ciel. Il dit, je ne vais pas faire. Il n'est pas dit, je vais faire tomber. Il dit, je vais faire pleuvoir. Oh, la manne, ce n'était pas de l'eau. La manne, c'était quoi? C'était la farine. La farine. Dieu ne dit pas, je vais verser la farine. Je vais faire tomber la farine. Il dit, je vais faire pleuvoir. Pour montrer la dimension spirituelle. Je vais pleuvoir ce matin, que Dieu fasse pleuvoir sur vous sa manne céleste, sa révélation. Comme on dit, il pleut sur moi la grâce et la faveur de Dieu. Et quand on parle de pleuvoir, on parle de quoi? On parle de pluie. La pluie, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la fertilité. Donc vous voyez que quand on parle de, quand Dieu dit, je vais pleuvoir la manne, il veut dire que la manne, c'est comme la pluie qui va avoir quelle vocation? Qui aura une vocation de faire quoi? De arroser votre vie, de donner quoi? De donner la puissance à votre vie. Donc quand vous lisez la parole, vous êtes en communion avec la pluie céleste. Il dit, je vais pleuvoir la manne. Donc quand vous méditez, le ciel est ouvert. Parce que quand le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie. Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie. En revanche, quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Donc Dieu dit, je vais pleuvoir la manne. Alléluia. Aïe! Est-ce que tu as la même révélation que moi? Dieu dit, je vais faire quoi? Pleuvoir la manne. Chaque matin, quand tu vas devant Dieu et que tu ouvres sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Répondez-moi. Il fait pleuvoir. C'est ça. La révélation se trouve dans ce passage-là. La bénédiction se trouve dans ce que quand tu ouvres la parole de Dieu et que tu te mets à la méditer, Dieu fait pleuvoir sur toi sa manne, sa grâce. Comment être béni? Comment prospérer? Comment réussir en toute entreprise? Comment il est possible de passer de l'échec au succès? Comment on peut avoir la révélation ou la fertilité quand vous êtes devant la parole de Dieu? Vous ouvrez les Écritures. Vous dites, Père Céleste, je suis ce matin devant toi. Je veux ma manne. Je veux ma manne. Oh Dieu, fais pleuvoir sur moi la manne céleste. Et la manne tombera sur vous. Elle va vous arroser. Comme la pluie arrose, votre vie sera arrosée par la révélation. Et je vous dirais que, quand vous voyez que dans la manne, il y a les vitamines. Et ce matin, je vous parlerai des vitamines qui vont vous permettre non seulement de résister, mais d'avoir une croissance. À un enfant, on donne quelle vitamine? Vitamine A, vitamine B. Toi, tu es docteur, tu es cardiologue. Donne-moi le nom des vitamines. Cite-moi. Fais ton travail. Non, mais c'est pas fini. Dis. Cite-moi, aide-moi, pardon. Vitamine B, D, vitamine C, vitamine A. A, là, c'est quoi? C'est pour là. La croissance. Et c'est pour la fatigue résister. Donc, quand vous lisez la parole, vous avez en vous la vitamine A. Et dans A même, il y a plusieurs degrés. Dans C, il y a plusieurs degrés. Dans B, il y a plusieurs degrés. Et dans quoi encore? Dans Z, il y a plusieurs degrés. Alléluia. Donc, quand quelqu'un se met à méditer la parole de Dieu, la personne se nourrit des vitamines célestes. Dis à ton voisin ce matin, se nourrit des vitamines célestes. Parce que des fois, on dit, lis la parole, mais on ne t'explique pas pourquoi il faut lire la parole. Je parle de ton âme. Ton âme va être en connexion avec cette source-là qui vient du ciel. Et sans le savoir, tu te rends compte que tu es fort. Même au sein des épreuves, tu es fort. Même au sein de la maladie, tu es fort. Même au sein de l'échec, tu es fort. Même quand tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, tu es fort. Parce que ton âme est forte, parce qu'elle a reçu des vitamines A, B, C, F. Ton âme a reçu toutes ces vitamines-là. Et tu résistes à toute forme de tentation. Mais mieux, tu peux être propulsé sur tes lieux élevés ce matin. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu donne quelque chose qu'on n'a pas. Et je crois vraiment à cela. Ce matin, je vais vous montrer quels sont les différents types de vitamines qu'on obtient quand on médite la parole de Dieu. À partir de quelques expériences que j'ai pu vivre, quelques types de vitamines. Il y a une vitamine, la parole de Dieu, que tu reçois quand tu as échoué et que tu es découragé. Et moi, j'ai déjà utilisé ce type de vitamine-là. Je vous donnerai plusieurs types de vitamines.
Et vous pouvez voir que quand on lit la parole de Dieu, ça change tout en nous. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est quand même un livre qui est connu, c'est juste après les psaumes et un peu plus devant, vous tombez vraiment sur Ésaïe. Après psaumes, les proverbes, Ecclésias, tout ça, vous tombez sur Ésaïe. Comme j'ai juste encore 20 minutes, je vais aller assez rapidement. Je ne fais pas trop de commentaires parce que j'ai un mot cité comme les vitamines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitamines. Quand on va arriver à la 7e vitamine, ton corps sera rétabli totalement. Donc ce matin, c'est sur la vitamine. On a su quelle vitamine? Bon. La vitamine qui donne la force, qui donne le courage quand on a échoué. Et quand tu te poses des questions dans ta vie. Ésaïe chapitre 30, verset 18. C'est pourquoi l'Éternel attend pour te faire grâce. Ainsi il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce à la paix de ton cri. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Dieu dit, dès qu'il aura entendu. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Quand vous lisez méditer ce passage, vous voyez que Dieu dit, quand il va entendre, il te répondra. Donc, Dieu a entendu nos prières. Votre amen est faible. C'est vrai que je suis limité, mais quand on aura le grand temps, vous allez me voir, je serai en mouvement. Quand vous vous mettez à prier, dès le jour où Daniel s'est mis à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Sa prière a été entendue. Beaucoup disent, oh mais pasteur, j'ai prié, j'ai gêné, je ne comprends pas, Dieu ne m'a pas exaucé. Tu es un incrédule patenté, Dieu a déjà entendu ta prière. Et bien, qu'est-ce qu'il répond après? Il te répondra. C'est au futur. Il te répondra au temps convenable. La réponse est déjà là. Elle se trouve dans le ciel et elle est en mouvement. Mais il faut que tu sois dans les conditions spirituelles, psychologiques. Il y a des gens. Je dis, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Je lance un défi. Si Dieu fait un miracle, il donne à quelqu'un 1 milliard, il va quitter l'église. Vous allez voir, il va quitter. On dit, il fait chaud, il n'y a rien. Il ne va pas donner bon dîme, il ne va pas donner bonne offrande. Il ne va rien faire de bon. Il va dire, parce que je viens me voir à la maison. Vous voyez, c'est lui même qui me demande de venir le voir, je lui à la maison. Alors qu'avant, il me disait, pasteur, tu es où? Je vais venir, je vais prier pour moi. Lui me dit, ah pasteur, comment ça va? Tu peux venir me voir? Je prie que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. Et que si Dieu vous bénisse, vous soyez toujours des hommes, non seulement fidèles, mais des vrais disciples au nom de Jésus. Je veux que vous acclamez ce matin. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne fait pas. Pas parce qu'il n'a pas envie de le faire, mais parce qu'on ne peut pas supporter. Regardez un petit succès. Les personnes les plus orgueilleuses, c'est ceux qui ont été admis au bac. Si vous voulez voir que quelqu'un est orgueilleux par rapport à ses études, quand il a le bac, il a le bac. Et donc, quand ils arrivent à l'université, mais ce sont les rois, c'est-à-dire qu'ils sont contents, quoi. Moi, je les prends en première année, mais ils sont dans les vapeurs, ouais. Ils sont en première année, ils sont dans les vapeurs, quoi, ils sont contents. Ils sont étudiants. Ouais, ceux qui sont en maîtrise, eux, ils sont un peu plus conscients. Ils cherchent à voir, après la maîtrise, comment faire pour avoir du travail. En première année, ils sont contents. Et puis, ils font tout. Non, en constitution, on dit que... c'est bon comme ça. Dieu doit penser que Dieu nous aide. Ouais, la révélation de la parole de Dieu fait que Dieu nous répond. Mais comme on n'est pas préparé psychologiquement, des fois, on a du mal à savoir que Dieu veut nous exaucer. Et donc, ce passage m'a beaucoup aidé. J'ai souvent dit, j'ai échoué dans ma vie, notamment en deuxième année. Et ça m'avait mis quoi? Ça avait été giflé. Je crois que si Dieu n'avait pas permis ça, j'aurais été grisé par le succès. Et Satan m'aurait frappé. Parce que quand je vois le résultat final maintenant, où c'est le sommet que j'ai atteint en Afrique, vous voyez que j'allais griser. Ton échec est une bonne chose, surtout si Dieu te destine à être la tête et non pas la queue. Il faut dire Amen. La pauvreté par laquelle tu passes est une bonne chose pour l'instant présent, parce que Dieu, s'il fait de toi un homme extrêmement riche, tu ne mépriseras pas ceux qui sont en galère. Ton cœur sera rempli de compassion. Tu vas aider les gens, non pas pour les exploiter, non pas pour les écraser, non pas pour les dominer, mais parce que tu veux les aider par amour, en te souvenant que toi aussi, tu dormais dans la chambre salon, tu mangeais à 16 heures, tu buvais café baoulé et tu faisais ta prière parce que tu veux que Dieu réponde à tes prières. Donc, il y a des choses que Dieu permet parce que justement, il nous prépare des grandes choses. Donc ici, Dieu dit, et quand j'ai lu ce passage-là, c'est un frère qui me l'a donné. Ce frère s'appelle Anouma Bernard. Un frère d'Alig. Je me suis assis sur la parole. Vitamine contre l'échec. Je prends la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, tu me dis que tu entends mes prières et que je ne vais plus jamais pleurer. J'ai pris Dieu au mot. Que je ne vais plus jamais pleurer. Quand vous lisez la parole, asseyez-vous. Ne lisez pas la Bible comme un journal. Quand un verset vous touche, arrêtez-vous là. Et faites quoi? Méditez, méditez. Vous priez avec ce verset jusqu'à ce qu'il se transforme en vous en assurance. Vous voyez, la foi est quoi? La foi, c'est quoi? Répondez-moi. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis quoi encore? Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si tu n'as pas l'assurance, tu peux pas démontrer. C'est quand tu as l'assurance que tu portes des actes qui indiquent que toi, tu vas avoir ce que tu espères avoir. Donc, vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, que vous priez avec ça, vous priez, vous priez, vous priez, vous proclamez. Pendant ce temps, c'est pas encore clair. Mais au fur et à mesure que vous priez sur le même passage, un jour, une semaine, un mois, trois mois, six mois, quatre mois, à un moment donné, la parole devient quoi? Aidez-moi, assurance. La parole de Dieu sera pour toi l'assurance. Et quand la parole devient pour toi assurance, il va arriver quoi? La démonstration. La démonstration. Parce que l'assurance est là, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand tu marches, même si apparemment, il n'y a rien, tu ne vois rien. Dans ton cœur, l'assurance est là. Et tu poses des actes de démonstration. Et tu vas loin. J'attends mon Isaac. Et ton Isaac va arriver. Vous voyez, il y a un autre niveau. Parce que vous voyez, la parole est liée à quoi? La parole est liée à la foi. Deuxième vitamine que je vous communique. Le passage qui est donné tout à l'heure, c'est un frère qui me l'a donné. Quand vous passez par des situations, des fois difficiles, on vous donne des passages. Quelqu'un va dire, oh, mais ça fait longtemps que j'ai lu ça. Mais le passage qu'on te donne, c'est la réponse. Des fois, on veut d'abord qu'on prie pour nous, on met crachant sur nous. Non. La prière n'est rien sans la parole de Dieu. Je vous assure, la plus grande bénédiction que puisse donner à quelqu'un, c'est la parole. Une seule parole suffit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Pas le Seigneur, le centenaire romain. Ne viens pas chez moi. Un païen, ne viens pas chez moi. Moi, je suis une autorité. Mais dis seulement un mot. Envoie seulement ta parole. Psaume 103. Il envoya sa parole et sa parole est quoi? Les guérit. Envoie ta parole seulement. Donc quand tu médites la parole ou quand quelqu'un te donne un passage, le passage peut correspondre, tout dépend de comment tu l'utilises. Il peut correspondre à ton besoin. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai pris ça dans mon cœur. Maintenant, deuxième aspect, c'est qu'au cours d'une prédication, d'un enseignement, d'un séminaire, quand les révélations sortent comme ça, Dieu distribue des vitamines. Il distribue des acides aminés. Des choses qui correspondent à ton besoin. Et tout d'un coup, ton esprit capte la parole. Et ça m'est arrivé au cours d'une convention. Prenez vos Bibles dans Joël chapitre 2, verset 25. Dans Joël chapitre 2, verset 25. C'est un passage que je connais profondément. Mais vous voyez, quand vous passez par des moments difficiles et que Dieu vous parle, croyez que ce que Dieu a dit, il va le faire. J'ai déjà dit ce passage plusieurs fois, mais c'est pour moi un passage particulier qui avait pris pour moi un sens particulier. Joël chapitre 2, verset 25. Dieu dit, je vais vous remplacer les années dévorées. Quelqu'un parmi nous a-t-il perdu des années dans sa vie, dans ses études? Dans l'attente de quelque chose, Dieu, au cours de cette convention qui a eu lieu en 95, ça fait mesdames 18 ans, j'ai pris la parole J'ai dit, cette parole, je la capte. Elle m'est destinée. J'ai souligné ça. Comme le passage de Ésaïe, chapitre 30, qu'on a lu tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, voici ce que tu dis. Tu déclares que tu vas remplacer les années qu'on dévorait, les sauterelles, les criquets, les grillons. Et Dieu ajoute, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Ça fait deux fois que Dieu me dit ça. Aujourd'hui, Ésaïe 30, il dit, et tu ne pleureras plus. Dans Jean chapitre 2, il dit, et mon peuple, oh, moi je fais partie du peuple de Dieu. Et toi, tu fais partie du peuple de Dieu. Il dit, et mon peuple, verset 26, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Or, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, même si au niveau humain, on peut se moquer de toi, et que tu sais que Dieu t'a parlé dans ton cœur, tu peux dire, je sais une chose. Non seulement ma vie sera restaurée, mais jamais, jamais, je ne serai dans la honte. Parce que Dieu va relever ma tête. Et quand je marcherai la tête droite. Je ne raserai pas les murs. Je marcherai en assurance. Et ceux qui pensaient que je te suis, je ne suis rien, que je n'ai rien, vont pouvoir dire, mais tiens, il est la lumière de notre village. C'est ce qu'on, nous, chez nous, on dit, chez Andida, on dit, il est la lumière. C'est pas dans le sens négatif. Tu deviens la, je sais pas si ça existe, ça m'a oublié, non. On dit, la personne est la lumière. Ça veut dire que tu deviens une personne qui éclaire. Je prie Dieu ce matin que, en étant en communion avec la parole de Dieu, si tu crois ce que Dieu dit, et que tu restes assis, fondé sur ce que Dieu a dit, tu n'auras plus jamais honte. Et dans ce cas-là, tu seras la lumière qui éclaire ta famille. Et à cause de toi, ta famille peut être restaurée. Et des gens viendront vers toi et diront, mais qu'est-ce qui fait ta différence? Dis, ma différence se trouve dans la parole de l'Éternel. Il me donne la force et je brille comme le soleil en son midi. Parce que Christ est mon soleil qui brille à moi. Alléluia. Les gens ont besoin d'avoir quelque chose de pratique et de palpable. Voici encore une vitamine. Quand on a échoué et qu'on a perdu des années dans sa vie. C'est une vitamine qu'il faut prendre. Prenez ça et méditez ça. Dieu dit, je vais remplacer. Je vais remplacer les années qu'on dévorait, les criquets, les échecs, les maladies, les ça. Il ajoute, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Dieu tient à ce que ceux qui le suivent ne soient pas dans la honte. Il tient à cela. Troisième vitamine que je vous donne et que Dieu m'a fait la grâce de connaître. Somme 44, verset 4. Ce passage vous aide énormément lorsque vous êtes de ceux qui ont fait leur effort. Là, vous n'êtes plus dans une situation d'échec, d'année perdue. Vous voyez que ça évolue en fonction. Ton âme se fortifie en fonction des circonstances et surtout en fonction de ce que tu lis de Dieu. Tu n'es peut-être pas de ceux qui ont échoué, qui ont perdu du temps dans leur vie maritale, matrimoniale, familiale, vie, c'est pas scolaire, professionnelle, en termes d'affaires, enfin, chacun sait un peu la situation dans laquelle il se trouve. Mais tu es de ceux, par exemple, qui font leur effort. Et tu as besoin d'une parole. Tu as fait tes efforts. Ici, je parle de ceux qui ont fait leurs efforts. Voici une vitamine, une parole dont vous avez besoin pour avoir le réveil spirituel individuel. Qu'est-ce qui est écrit ici? Verset 4. Car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu leur étais favorable. J'aime ça. J'aime ça. Ce n'est pas leur bras. Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Mais c'est la lumière de ta face. C'est ton bras. Parce que tu leur étais favorable. On rentre dans la dimension de la faveur de Dieu lorsque tu as fait tous tes efforts. Tu vois un entretien pour embauche. Tu prépares ton dossier pour un appel d'offres. Tu vas discuter contrat avec quelqu'un. Ou tu vas à l'école, il y a un examen à préparer. Enfin, tout ce qui est de la vie. Tu fais tes efforts. Quand tu as fini de faire ce que tu peux faire le mieux, quand tu as fini, lève les bras vers le ciel. Dis, Seigneur, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai monté mon dossier au mieux que je pouvais. Mais les autres ont fait la même chose aussi. Je sais une chose, ce n'est pas mon bras qui peut me secourir. Ce n'est pas mon épée. C'est l'arsenal et tous les moyens techniques. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais je sais une chose. C'est ton bras. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face qui a sauvé les gens dans le passé. Seigneur, parce que tu m'es favorable. Et quand tu dis ça, dis Seigneur, ta faveur vient sur moi. Ta faveur vient sur moi. Ta grâce coule dans ma vie, Seigneur. Parce que tu m'es favorable, Seigneur. J'évolue. Tu m'es favorable, Seigneur. Et ta faveur vient. J'ai fait ce que j'ai fait. Attention. Quand tu n'as rien, quand tu n'as pas fait quelque chose, c'est pas la peine de dire à Dieu, fais ma faveur. Ça n'a aucun sens. Quand tu as fait ta part, prends cette vitamine et dis, Seigneur, maintenant que j'ai fait ce que j'ai fait, ta faveur. Que Dieu mette sa faveur sur toi. Que tous tes efforts puissent être scellés par la faveur et la grâce imméritée de Dieu. Quand tu auras fait toutes ces choses, mets-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, voici tout ce que j'ai fait. En tant qu'être humain, j'ai fini. Mais toi, tu es Dieu. Ta faveur est sur moi. Vous voyez, la parole donne la force. Donc quand tu sors de ce lieu secret avec Dieu, tu sens en toi que ton âme a été fortifiée. Vous voyez, la parole nous permet de pouvoir avancer. Vous voyez qu'il y a un lien entre la parole et la prière et l'adoration. Vrai ou faux? Puisque quand votre âme reçoit la parole, qu'est-ce qui se passe aussitôt? Vous commencez à faire quoi? À adorer, à louer, à acclamer le Seigneur. Vous sentez en vous-même que vous êtes en train de pouvoir de progresser. Cinquième chose, quatrième chose dont je vais parler. Josué 3, 7. On va lire rapidement. Voici notre parole que Dieu m'a donnée. Tous les passages que je vous donne sont les passages par lesquels Dieu m'a parlé, soit parce qu'un frère, tout à l'heure j'ai dit qu'un frère m'avait remis un passage, quand j'avais échoué. Je me suis assis sur ça pendant des mois et des mois et des mois. Après, j'ai un autre passage qui m'a été donné, que j'ai compris dans le psaume, j'en ai parlé tout à l'heure. Et même le psaume 44 que j'ai lu, c'est bon, quand je faisais mes études, que j'avais désormais à passer, il dit à Dieu, j'ai fait mes efforts, maintenant que ta faveur vienne sur moi. Et je donne le passage aussi de Joël chapitre 2, verset 25, au cours d'un séminaire, d'une conférence. Et Dieu fait quoi? Il remplace les années qui ont été perdues. Vous voyez, quand vous êtes dans cette logique-là, votre foi est forte. Maintenant, je vais lui donner un passage qui m'avait été donné. J'étais à Cotonou, c'était en avril-mai 2001. J'avais été invité j'étais au ministère de l'Environnement à l'époque et il y avait un atelier sur la biodiversité. Donc j'étais à l'hôtel, je priais. Et puis ce passage-là a pris dans mon esprit un sens particulier. Lisez ce qui est écrit ici, verset 7, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Maintenant, voyez le chapitre 7, verset 8. Chapitre 5, plutôt, chapitre 4, verset 14 maintenant. Voyez le chapitre 4, verset 14. On voit que chaque fois que Dieu te parle, je donne des dates précises, avec des circonstances précises, par lesquelles la parole a pris un sens particulier pour moi, et cette parole s'est réalisée. Chers frères, chers sœurs, chaque fois que dans la communion avec Dieu, un passage biblique prend un sens particulier ou est illuminé par le Saint-Esprit, Dieu t'a parlé, c'est fini. Dieu t'a parlé, reste sur ça. Invoque son nom. Tu vas voir que ces choses qui ont été dites vont s'accomplir. Regardez le verset 14, chapitre 4 de Joël. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël. Et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. Amen. Quand j'ai lu ce passage-là, quand Dieu m'a parlé de ce passage-là, il dit, waouh. Avril-mai 2001. Il dit, mais comment je vais devenir grand aux yeux de toute la Côte d'Ivoire? Parce qu'Israël est remplacé par la Côte d'Ivoire. Comment? À votre avis, comment? Je n'avais aucun élément pour savoir que ça pouvait être vrai. Je n'avais aucun élément. Si c'était une prophétie de quelqu'un, j'aurais du mal à douter. Mais vous voyez, Dieu avait-il parlé oui ou non? Il dit, je commence à te rendre grand et je vais te rendre grand aux yeux de tous. Je dis, waouh. J'ai pris ce passage, je l'ai souligné. Je ne savais pas comment, Dieu m'a parlé dans quatre domaines, mais je savais que Dieu m'avait parlé. Chers frères et chers sœurs, quand tu lis la parole, que tu la médites, Même si ce que Dieu te dit par la parole est trop grand pour ton esprit, crois-le. Tiens ton voisin, crois-le. Crois-le, crois-le, crois-le. Tu ne peux pas savoir comment, mais il faut croire cela simplement. Lève tes mains vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque jour, lève tes mains et dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as rendu grand. C'est ce que je faisais chaque jour. Père, je te remercie parce que tu m'as rendu grand. Je ne voyais rien, mais je le remerciais quand même. Mais Dieu, tu m'as parlé. Il me dit, mais comment tu vas me rendre grand aux yeux de toute la Côte d'Ivoire? Comment c'est possible? Comment? Par quel moyen je vais être grand? Le 25 novembre 2011, Dieu l'a réalisé au Kamès. Pas pour me rencontrer, Dieu l'a fait. Il s'est écrit, c'est fini, c'est fait. Je veux dire une chose ce matin. Si Dieu t'a parlé, même si ce qu'il t'a dit est trop fort pour toi, les visions que Dieu m'a montrées, je ne sais pas quoi accomplir, mais j'ai vu ça. Ça va se faire. Comme je sais qu'il a fait ça dans ma vie, vous savez, vous pouvez être à l'aise si vous n'expérimentez pas quelque chose en propre. Maintenant, quand ça a été expérimenté maintenant, vous dites, ok, ça va aller pour l'ensemble du groupe. J'ai vu une immense église, une très grande église, une très grande église. J'ai vu une foule, mais pas poussée, une foule considérable. J'ai vu un bâtiment immense. Ce qu'on fait là, ça c'est transition. Hein? C'est là, George, on est en transition là. C'est pas ce que j'ai vu. Hein? Vous ne croyez même pas. Vous ne croyez même pas. C'est... Parce que quand je vois un peu la dimension, il dit c'est grand. La foule que j'ai vue, ça dépasse ce qu'on est en train de faire. Il dit une chose. Si Dieu t'a parlé à travers un message, à travers une méditation de la parole de Dieu, crois-le. Même si ton instant présent te dit tu es folle, tu es bête, tu es idiot, tu peux croire à ça. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as parlé quand même. Alléluia. Tu t'assois, Père Céleste, tu m'as rendu grand. Confesse-le. Père Céleste, tu m'as dit que tu restaures mes années dévorées. Seigneur, tu m'as dit que tu me donneras un enfant. Tu m'as montré ça en vision ou en songe. Où j'ai vu ça. Quelqu'un m'a parlé. 25 ans, Abraham, il attend, il voit. Comment? Je ne sais pas. Seigneur, tu m'as dit que je ne mourrai pas jeune, je ne mourrai pas vieille fille. J'ai 42 ans. Où j'ai 38 ans. Mon cœur est critique. Seigneur, je déclare ta parole. Tu as dit que je ne serai pas seul. Je confesse ta parole. Ça va se réaliser. Seigneur, il y a la maladie dans mon corps. Le mal s'est installé. Mais tu m'as dit un jour, dans Ésaïe 53, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, je déclare que je suis guéri. Je dis une famille qui est démunie, il n'y a absolument rien. Dieu, tu m'as dit que je suis la lumière, celui qui va restaurer mon foyer, ma famille. Seigneur, je te remercie parce que c'est moi qui restaure ma famille. Père Céleste, ta parole est accomplie. En tant qu'est-ce que tu fais, tes mains sont levées. Ou tu as genoux. Quand le cas est très sérieux chez moi, vous savez comment je prie? Je prie face contre terre, complètement. Totalement plongé, complètement. C'est comme ça que je prie. Bon, quand je lis contre les démons, là, je suis debout, là, transpire. Mais quand je suis dans le sein des saints, et que je dois parler avec Dieu, et que c'est fort, je m'incline totalement, à plat ventre, face contre terre. Et Dieu, je suis devant toi. C'est toi qui m'as parlé. Ta parole est vraie. On se tient debout, s'il vous plaît, on va prier. Alors, ce matin, Tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu as besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Et si ce matin, pendant que je priais, pendant que je prêchais, Dieu t'a parlé, rends gloire à Dieu. Et dis, Seigneur, ce que tu as dit, tu le feras. Et prends un engagement à partir d'aujourd'hui d'avoir une communion avec Dieu par le moyen de sa parole. N'attends pas dimanche. Tout ce que j'ai dit, c'est dans mon intimité avec Dieu. Quand Dieu me disait qu'il allait m'élever au yeux de toute la Côte d'Ivoire, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel à Cotonou. Dieu l'a fait. Et vous en êtes témoin. Dans ton intimité à toi, même dans ta douche, il y a des choses dont Dieu m'a parlé pour concernant l'église en 98. J'ai écrit ça. J'ai écrit ça. Dans une douche à Djokoué. À Djokoué, novembre 98. J'ai écrit ça. Ça va se faire. Même dans l'avion ou dans la voiture, tu médites, Dieu te parle. Écris ça. Écris. Parce que si tu n'écris pas, tu as oublié. Et quand tu oublies, tu ne peux pas avoir la foi. Mais quand tu as écrit, moi j'ai mon cahier de révélation. Tu sors le cahier. Tu dis, oh Dieu, tel jour, je médite ta parole, tu m'as parlé. Seigneur, souviens-toi. Puis maintenant. Et si dans ta méditation personnelle, Dieu t'a parlé, rappelle à Dieu son souvenir. Prie maintenant pour toi-même. Je n'ai pas fini mon message, mais ce n'est pas grave. Prie pour toi maintenant. Et dis à Dieu, je te remercie. Dis à Dieu, amène-moi à aimer ta parole. Comment le jeune homme va-t-il rendre plus son sentier? Il dit, c'est en se dirigeant d'après sa parole. Comment triompher des tentations du monde? Ce n'est pas seulement en faisant l'effort d'être pieux. Non, c'est en laissant son cœur être rempli par la parole de Dieu. Comment triompher des pressions de la vie, du stress? On est inquiet pour son avenir, on est inquiet pour tout. Quand on regarde à gauche, à droite, on ne voit personne. On dit, mais je suis foutu. Et si j'échoue dans mes études et que je ne deviens rien, si j'échoue à tous les concours, je fais quoi? Non, il ne faut pas regarder à ces choses-là. Regarde à ce Dieu qui est tout puissant. Si tu as parlé, dis ce matin, Dieu, tu m'as parlé. Je m'engage à acheter une Bible, à avoir une Bible. Et je m'engage à lire la parole de Dieu. Chaque jour, à engager mon esprit, à méditer la parole. Fais-le ce matin. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Oh, rends gloire à Dieu. Ouvre ta bouche maintenant. Et dis, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Ou si tu veux, médite sur ce que tu as entendu maintenant. Ou si vous voulez, rappelle le souvenir. Madame Guigui, viens ici. Rappelle le souvenir. Continue à parler. Ton offrande va être un point de contact. De la parole de Dieu, tous ceux qui ont porté cette offrande à Dieu avec leur cœur sont en contact avec la source divine qui est Dieu lui-même. Et par ce acte que tu as posé, tu as invoqué la grâce, le souvenir de Dieu et la puissance de Dieu. Maintenant, reçois sur ta vie, dans ta vie, la grâce et la puissance de Dieu. Que toutes les puissances qui s'élèvent contre toi à travers des paroles ou des cauchemars, elles soient elles-mêmes épouvantées au nom de Christ Jésus. Je déclare ces paroles et j'enlève sur toi tout jugement contraire. Tout jugement sur ta vie est abrogé. Et maintenant, c'est la grâce et la puissance de Dieu qui font la différence en toi. Dans le nom de Christ Jésus, je déclare ces paroles. Ce qui a été scellé en toi va arriver à son terme. Il ne mourra pas avant son temps au nom de Jésus. Amen. Rends grâce à Dieu ce matin. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ta parole, mettons la vitamine. À partir de maintenant, je développe une communion avec toi par le moyen de ta parole. Chaque fois que tu me parleras, je serrerai tes paroles dans mon cœur afin de confesser ta parole jusqu'à ce qu'elle se réalise. Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. On peut acclamer le Seigneur puis on s'assoit.